Bon, ben, bienvenue au podcast Ancien Magasin Général. C'est le premier podcast cette semaine. J'ai dit podcast. Ouais, podcast, ça se dit super bien. C'est pas un podcast, c'est un podcast. C'est le nouveau mot pour dire podcast. C'est podcast.
Non, c'est pour le public.
C'est pour le public, ouais, c'est bien. Okay. Fait que j'aimerais remercier nos commanditaires. En premier lieu, Wayne Studio qui nous aide à la création de ce podcast. Aussi,
Thanks, Wayne.
Aussi, Danavan Dugas et Samantha pour Via Capital. On a Simplex Bécomo. On a la municipalité de Godbout. On a Saint-Pancras, Québec North Shore. Ben, ils ne savent pas encore, mais là, ils vont le savoir. Et Distillerie Vent du Nord. Ça fait que, les amis, vous allez avoir besoin de nous donner des sous prochainement.
Fait que... N'oublie pas Sly, notre striker numéro un.
Oui, Sly Sylvain qui est venu ce soir nous aider pour tout ce qui est... c'est notre monteur électrique technique. C'est bien? Et il ne boit pas de la Saint-Pancras, par contre, il boit de la Labatt Bleue, mais c'est pas grave, Saint-Pancras, ça va vous coûter cher.
On surprend ses shooters avec, de toute façon, il va que le fort.
C'est vrai. Bon, comme première entrevue, j'aimerais vous présenter ma conjointe Valérie, la fille magnifique que je me réveille à tous les matins avec sa très grande bonne humeur. Bien, bonne humeur, pas toujours, ça arrive quelquefois, mais c'est très, très, très rare. Elle est presque toujours de bonne humeur. Valérie, conte-nous l'histoire du Resto Pub Ancien Magasin Général.
Comment on a starté notre resto?
C'est en plein ça.
Bon,
ben... Là, attention, si tu parles dans mon ordi, c'est pas parce que j'étais sur YouPorn, parce que je travaillais.
Ben là, devance-moi pas, là.
OK, vas-y, je t'écoute. Vas-y, je t'écoute.
Ben oui, t'étais tout le temps devant ton ordi, aussi workaholic qu'aujourd'hui, à cette heure, il travaille dans le resto, mais avant, il était tout le temps devant son ordinateur, on faisait plus du financement automobile. Fait que c'était un 14-16 heures par jour devant l'ordinateur, puis moi,
c'est
ben...
C'est quoi automobile, t'as dit?
Financement automobile qu'on faisait.
Financement,
ça, ben
c'est
oui.
Bon.
Ben oui. Puis moi, ben j'en veux des congés dans la vie. Lui, il n'en veut pas. Moi, j'en veux. Mais quand je prends des congés, je viens travailler. Fait que j'ai descendu en bas, puis j'ai décidé de commencer à arracher tout le plancher. Ici, t'as le prolor qu'il y avait par-dessus, puis j'ai trouvé le beau plancher de bois à terre.
Il y avait quoi avant? C'était juste comme...
Un gros local vide. Les fenêtres, c'était juste des cordes de fenêtres vissées après les murs. C'était même pas rentré. Okay. C'était... Jauny, ça faisait 40 ans qu'il n'y avait rien
il y avait
ici, Jim.
Business ici, il y a longtemps,
l'ancien magasin général, il y a 40 ans, était ici.
The Real Magasin General.
The Real Magasin General.
Oui, c'est ça.
Merci,
c'est
une
ça.
Chance que tu m'as réveillé. Ouais. Continue, c'est bon. OK, l'ancien magasin général, c'est pour ça, c'est l'ancien. Alors,
c'est ça. Fait qu'un gros local vide, ça fait 40 ans ici. Fait que j'ai commencé à arracher ça, à enlever la colle, à mettre ça sur le beau plancher de bois. Mon chum, il descend et dit « Hey, bé! » C'est fou. Il dit, Chris, il dit, on va être capable de faire de quoi d'autre? J'ai dit, donne-moi 2 ans. 2 ans, là, je te fais un beau bar là-dedans, bébé. Il dit, non, on se marie ici. Je le regarde, il dit, Chris, tu me niaises. J'ai dit, on se marie au mois d'avril.
En avril.
On est au mois de décembre.
Oui, mais c'était-tu le poisson d'avril?
Presque.
Ça fait combien d'années parce qu'on est au mois d'avril?
Ça va faire 3 ans, là, le 16.
Ouais,
le 16 avril, 3 ans d'anniversaire. Bon anniversaire d'avance.
Ben merci. Fait que c'est ça, il m'a comme mis au défi. Fait que j'ai fait le resto ici en 3 mois.
Wow.
J'ai annulé le mariage à Québec parce que bien sûr, tout était prêt à Québec pour se marier. Et j'ai tout reprogrammé le mariage ici en plus de Renault. 3 mois.
Mais toi, tu es né à Québec?
Non, Bécomo. J'étais à quelques kilomètres d'ici, là.
OK, continue, c'est génial.
Donc...
Hey, j'ai quand même trouvé ça, c'est, ben, je vais le présenter tout à l'heure, c'est notre ami Jim Zeller. T'es très bon animateur de podcast. Hein?
Moi, je suis
tu pourrais venir rester avec les baleines
j'ai
ici.
J'ai de la jasette, pas de problème de jasette. Anyway, continue. Ça va
on
bien
continue.
Ton appel.
Bon, ben ça marche. Fait que finalement, on a célébré notre mariage ici au mois d'avril. Puis là, on a décidé de devenir un bar clandestin. Hey, là, faut pas trop dire ça fort en vrai. Hein? Fait que pendant quasiment 2 ans, on a opéré ici des shows gratuits. On invitait le monde nowhere. On mettait ça sur Facebook. Venez-vous-en. On fait le party ici. On a fait une exposition de char. On a fait venir David. Puis nous, on a fait venir une couple d'artistes tout le temps, juste pour faire triper le monde de Godbout.
Okay.
Puis quand les restos ont fermé l'année passée, c'est là qu'on a décidé de devenir plus légal. Là.
Hein? Bien sûr, on a décidé vraiment d'ouvrir parce qu'il n'y avait plus de services alimentaires à Godbout. Mais là, c'est toi qui es supposé nous dire
ben,
ça.
Tu peux continuer parce qu'on a fait ça ensemble.
On n'avait plus de services alimentaires à Godbout. Je venais de prendre ma retraite puis je me disais, Hey, je pourrais ouvrir ça légalement et inviter Jim Zeller dans mon pub. D'ailleurs, je vous présente Jim Zeller, la star des stars. Jim, parle-nous de toi.
Okay. Je veux juste savoir une question. OK, Val, OK. C'est pas important, moi. Qu'est-ce qui est important? C'est durant le temps de COVID, qu'est-ce qui arrivait ici? C'était pas ouvert encore. Hein?
Mais c'est pour ça qu'on s'est marié ici.
OK.
C'est à cause du COVID.
Pas juste ça. Okay. On s'est caché ici durant le COVID. Je vais être bien honnête avec toi, Jim. Nous autres, c'est à Côte-Nord, il n'y a pas eu autant de cas qu'en ville. C'était pas aussi important. Puis, tu sais, gars, Godbout, il n'y a même pas de dépanneur, il n'y a pas rien, là.
Mais
fait
c'est,
que, on venait se réunir en famille, nous autres, en cachette ici, là.
L'affaire le plus impressionnant que j'ai fait dans ma carrière, c'est d'apprendre comment jouer l'harmonica avec une masque. Crains-moi,
ça
je peux jouer 3-4 notes, puis après ça, c'est pas bien bon. Anyway, continue, la question était...
Mais là, ma question, là, parce que là, Jim, en fin de compte, s'est rendu notre co-animateur, mais on voulait parler, on voulait vous présenter Jim. Moi, pour moi, Jim, c'est un idole, c'est la star des stars, que tu parles à n'importe qui, Kevin Parent, David Jalbert, plein d'artistes, Michel Pagliaro, tu parles à plein d'artistes au Québec. Jim, c'est vraiment un icône. Fait que Jim, j'aimerais ça que tu nous racontes de où c'est parti tout ça.
De où c'est parti tout ça? Bon, c'était probablement dans la 7e envahison martien sur la planète. Et on cherchait de l'eau. C'est sûr qu'on était vraiment dans le désert sur ma planète. Puis la seule place qui avait vraiment beaucoup d'eau, c'était sur la Terre. Et on a suivi le signal d'un baleine, justement. Et quand j'ai entendu le message télépathique d'une baleine, de Godbout, justement, j'ai décidé de me diriger vers la Terre. Et durant ce temps-là, à l'âge de 7 ans, j'ai avalé une balayeuse. Et depuis ce temps-là...
Tu as avalé une balayeuse un peu.
Oui, c'est pour jouer l'harmonica, okay. Sans me forcer. Non, tout ça pour dire que j'ai commencé à jouer la musique, j'avais peut-être... Je chantais pendant, j'avais peut-être 13, 14, 12, 13 ans. Je chantais dans les groupes à Sherbrooke, parce que j'étais un bloke, un Anglais. Fait que je chantais avec des petits groupes québécois. On chantait des tunes des Beatles, des Rolling Stones, de toutes sortes à l'époque. Et on m'engageait parce que je chantais bien, mais en même temps, je pouvais chanter des vraies paroles parce que j'étais un Anglais. Fait qu'à ce moment-là, un jour, j'étais à l'école à Sherbrooke avec un de mes amis. On était aux patates frites à côté, puis on a pris une patate frite à 5 cents, OK? Dans ce temps-là, il y avait des corsos à 5 cents puis à 10 cents. À 10 cents, tu en avais pour toute ta famille. OK? Ça coûtait pas cher. Fait que là, on est rentré chez lui. C'est un petit riche, il s'appelait David Hoskins. Puis je suis rentré chez lui vers 1h l'après-midi pour le lunch. Puis on est rentré, puis j'ai monté dans sa chambre. Puis il y avait des albums à terre, puis il y avait 2-3 harmonicas qui traînaient à terre. OK? Puis lui, il est descendu en bas pour chercher un verre de Kool-Aid, parce que c'était ça le drink pour nous autres à l'époque, OK? Parce qu'on se gelait sur le sucre, hein? OK? Mais tu sais, tu t'en rappelles, hein?
Oui.
N'est-ce pas, tu t'en rappelles, hein? Layla, le Kool-Aid. Anyway, le Kool-Aid, c'est très bon. Anyway, il est allé chercher un verre de Kool-Aid, puis pendant qu'il était parti, j'ai mis une harmonica dans ma poche. Puis je suis retourné à la maison, puis j'ai commencé à pratiquer, à jouer de l'harmonica. Puis j'ai ajouté ça à là. Mes tours de chant, tu sais, tu faisais. La première chanson que j'ai appris à l'harmonica, c'était celle-là. Wow. Oh, well, you heard about the midnight ramble, the one you never seen before. Anyway, tout ça pour dire que j'ai commencé à ajouter l'harmonica. Et tout de suite, l'harmonica me parlait comme si c'était attaché à moi. Je sais pas, c'est comme n'importe qui, n'importe quel enfant. On peut pas enseigner ça à l'école. Qu'est-ce qui va être ton véhicule de t'exprimer? Il y en a plein, tout le monde. Et moi, j'ai tombé chanceux.
Tu vois, Jim, j'ai failli, moi, être comme toi. C'est juste que moi, j'ai fait le contraire de toi à 14 ans. C'est la valeuse qui avalait.
Oui, mais c'est pour ça que tu es tout le temps...
C'est pour moi qui avait...
Là, j'ai quand même une grosse image, là, Wayne,
présentement. Non, c'est pour ça que tu es tout le temps propre.
À 14 ans, mais...
C'est pour ça que tu es tout le temps propre.
Mais là, il parle peut-être de sa circoncision avec la valeuse. OK,
mais pour acheminer quelque part dans notre hystérie, On peut dire qu'à un moment donné, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'avais à peu près, à l'âge de 15 ans, je chantais dans les bandes de Sherbrooke, puis à l'âge de 15 ans, je suis parti. Je suis parti à l'époque de Woodstock. OK? C'est en 1970. Je suis parti l'été. Je partais avec un voisin à Sherbrooke. On était pauvres, puis je partais avec lui. On voulait aller à l'aventure parce que c'était le temps des hippies, 1970. On est parti sur le pouce. On est allé en Ontario pour ramasser le tabac. On va faire de l'argent. OK? Moi, j'ai topé à peu près deux heures au tabac, tu sais, parce que je comptais les menteries que je savais comment. Puis après ça, le voisin, il est retourné à Sherbrooke, puis moi, j'ai continué sur le pouce pendant un an et demi, jusqu'en Alaska, jusqu'en Californie, jusqu'à partout, sur le
là,
pouce.
T'as fait pas mal le tour de la terre.
Ouais, un petit hippie, OK? Puis c'est là, et mon harmonica, c'était très important. Je pouvais jouer assez bien pour passer le chapeau, faire de l'argent pour manger. Et c'était une époque où il y avait un collectif de jeunes, les hippies. It was all over, partout en Amérique du Nord. Ouais. Et puis quand tu faisais du pouce, il y avait tout le temps 3 ou 4 qui attendaient à la même place que toi. Fait que j'ai fait tout le tour pendant. Puis quand je suis revenu, j'avais 16 ans, 17 ans. Quand je suis revenu, j'ai embarqué, j'ai retourné à l'école, puis j'ai commencé à jouer dans les bandes. Et là, j'ai commencé à faire carrière. Mon premier band, c'est un groupe en 1970 que je jouais. C'est une gang de Détroit. C'est un band de blues, ça s'appelait Shaky Arb. Puis le guitariste qui était engagé dans le band, et moi, j'étais engagé, les deux Québécois qui ont rentré dans le band de Détroit, c'était un guitariste qui s'appelle Jean Miller.
Okay.
Et Jean Miller et moi, on a commencé ensemble parce qu'on a fait des auditions. Puis ils nous ont engagés, moi et puis Jean. Puis là, on a commencé à faire des tournées avec tous les grands bluesmen, B.B. King, Muddy Waters, Willie Dixon. On faisait des tournées. J'étais vraiment chanceux. J'ai tombé parce que j'ai appris le blues des pionniers, des grands, des légendes de blues, okay. Des originales. Fait qu'on était en tournée avec Muddy Waters, c'est pas n'importe qui. Fait que c'est sûr et certain qu'à ce moment-là, j'ai lancé ma carrière parce que c'était moi, c'est juste moi. Je n'avais rien d'autre que je voulais faire.
Aussi, là, la manière dont tu joues l'harmonica,
ouais,
moi,
c'est sûr
que avec ça. Là, t'as
avec
un blues,
le temps,
c'est incroyable.
S'en va. Ben, avec le temps, s'en va, tout s'en va. Parce que moi, j'aime ça parler entre les chansons. Mais tout ça pour dire que j'ai commencé, j'étais vraiment bien reçu quand je suis revenu au Québec. Vraiment, quand j'ai commencé à faire des spectacles, on faisait des tournées aux États-Unis avec ce band de blues de Détroit. Puis en revenant, le mot s'était passé que j'avais un petit bébite électrique qui jouait l'harmonica comme pas à peu près. Fait que je pognais des contrats comme invité avec Robert Charles Lebas, Jean-Pierre Ferland, Diane Dufresne, Louise Forestier, tous les noms québécois. Je me suis associé avec Pag, avec Boule Noire, avec Nanette Workman. Les premières choses que j'ai faites avec Nanette Workman, c'était en 1977 au Jardin des Étoiles. Juste pour te dire que... Puis c'est de là que j'ai... À un moment donné, j'avais une sorte de flair pour... j'avais accumulé beaucoup, beaucoup d'amis. Et en même temps, je faisais des tournées partout. Première fois, j'ai été en Europe, c'est en 1979 avec Pag. Et j'ai fait 5 albums avec Pagliaro. Fait que... La route se poursuit toujours, mais j'étais vraiment gâté d'avoir ceux qui... Michel Pagliaro, c'était comme mon coloc pendant à peu près 2 ans. Fait qu'il m'a montré beaucoup de choses. Il m'a montré bien les affaires, quoi faire et quoi de ne pas faire. Mais en même temps, c'est des principes que j'ai toujours. Et quand je joue avec un jeune comme lui qui joue la guitare, t'as quel âge, toi, sœur?
À Phil.
J'ai 32 ans.
Son nom, c'est Philippe...
Philippe DeCesa.
Philippe DeCesa, OK. T'as quel âge, t'as dit?
32 ans.
T'es bien vieux. Si je t'ai rencontré, t'avais quel âge? 27?
À peu près.
OK.
2019, j'avais...
Tu vois, mais juste pour dire... Pour,
présente aussi à Jim, notre ami.
Lui, ça, c'est un rescapé de Valcatraz. C'est... C'est, moi, je te connais comme Master Corporal parce qu'il était dans l'armée canadienne. On remercie votre service, ouais, monsieur.
Oh, oui.
Il a fait le tour et c'est notre chauffeur. Puis lui, sa passion et son hobby, mais c'est, il aime ça, il adore ça, jouer la bass. Et grâce à lui, un petit peu, c'est les deux collègues que je les ai rencontrés ensemble quasiment.
Là, justement, tu parlais de tous les musiciens que tu as pu rencontrer, ouais, là, tes coéquipiers, là, parce que ça a
deux fois
que
tu
au Resto Pub. Mais on, ouais, s'entend que pour te suivre sur une scène, tu as deux gars,
ben,
quand même,
c'est sûr que je travaille à la fouette, tu comprends? Moi, c'est juste un regard.
Moi, j'irais plus à coup d'yeux. Bon. Quand tes regards là, sont mieux, tu suives le beat.
Ouais, ouais, c'est ça. Mais la part, c'est que c'est pour revenir, je parlais de Pagliaro. Michel Pagliaro, il m'a montré beaucoup comment être un leader de groupe. Parce qu'il dit, c'est très, très bon, mais il y a une capitaine. Mais le capitaine, il faut qu'il soit gentil avec ses matelots. Puis, je suis gentil avec toi aujourd'hui. Puis lui, il adore ça, jouer, mais c'est pas sa profession, mais en même temps, c'est la meilleure thérapie pour Pat Lagacé, qui joue la baisse avec nous autres. Puis, il joue pas souvent, mais de temps en temps. Plus, il nous rend grand service avec comme chauffeur et comme ami. Fait que surtout l'amitié qui passe. Lui, je suis capable de l'écœurer autant que je veux parce qu'il veut être un musicien professionnel et je le paye. Là, et c'est qui le paye, moi? C'est toi qui me paye.
Ouais.
Fait que ça va bien, non, à ta paire.
Fait que là, si je résume, t'as un ami puis t'en as un que c'est vraiment plus professionnel. C'est ça. Non, c'est des blagues.
Ouais, ben, c'est ça. Dans le fond, c'est mon ami aussi. Mais juste en voulant dire que à fur et à mesure, des années, en vieillissant, c'est le fun d'avoir, comme on parlait des jeunes qui sont venus ici pour jouer au chic, historique Magasin Général. On parlait de David Jarbert puis William Delaurier. C'est des jeunes qui m'ont engagé il y a quelques années, quand ils commençaient leur carrière, puis ils m'ont engagé comme harmoniciste pour jouer de l'harmonica sur leur album, puis s'associer. Fait que c'est sûr, j'en suis fier. À mon âge, je me rappelle quand j'étais jeune, de leur âge aussi, quand j'arrivais dans un show de blues à Montréal avec B.B. King, avec des bluesmen, et je voulais embarquer sur le stage, puis je me rappelle toujours de ceux qui m'ont invité, puis ils m'ont dit, ils ont démontré la générosité.
Puis je peux t'assurer que ces gens-là, excuse de te couper, mais ces gens-là, quand ils parlent de Jim Zeller, que ce soit William Delaurier ou David Jalbert, pour eux, t'es vraiment comme un icône. Quand je dis à tous les artistes qui sont venus ici, que je dis que Jim Zeller ou qui voit notre programmation, qui voit que Jim fait partie de la programmation, tout le monde sont vraiment « Hey, wow, Jim est venu ici », puis ils ont tout le temps une anecdote à raconter. Mais tantôt, Jim, tu parlais des années 70.
Oui.
Mais les années 70, surtout les années hippies, ça venait avec beaucoup d'artifices aussi.
Bien, c'est sûr et certain qu'il y a... Moi, la première drogue que j'ai prise quand j'avais à peu près 14 ans, puis j'ai même raconté hier soir quand on a joué la chanson Roadhouse Blues des Doors. Tu me connais, je commence à avoir une sorte de talent d'animateur.
Oui,
mais en même temps, ça fait partie de la réalité. Il faut dire la vérité. Je ne sous-estime jamais ceux qui sont là, qui se présentent devant moi, parce que je me mets à leur place. Puis je ne veux pas me faire bullshitter. Tu sais, les mêmes clichés, les mêmes blablabla. Non. Fait que je compte une histoire, tu parles des artifices de l'époque 70-60. Bien, la première drogue que j'ai prise, c'était l'LSD. OK? Puis la raison que j'ai pris l'LSD avant de fumer un joint, c'est parce que je me brûlais quand j'allumais des allumettes. Aussi niaiseux que ça.
Trop compliqué que, fumer un joint, okay? Let's go, on y va plus fort.
Moi, j'ai dit, comme hier, j'ai dit, je me rappelle d'avoir été avoir un show des Doors au Forum en 79. On était dans un autobus nolisé de Sherbrooke parce que j'allais à l'école à Sherbrooke dans les cantons de l'Est. Fait qu'on s'est ramassé toute la gang. Puis dans ce temps-là, je pense un show au Forum, ça coûtait à peu près 4$, 5$ pour aller voir les Doors au Forum. Okay? Ça fait longtemps.
Ça fait longtemps.
Puis là, on prenait... Mais la drogue était partout, c'est sûr et certain. Et c'est toujours... C'est pas que c'était... Je passe... Moi, ça fait à peu près... quasiment 9 ans que je ne consomme plus rien. Tu sais, j'ai arrêté. Un jour, j'étais tanné. C'était temps d'arrêter. C'est pas par question religieuse, par question quoi que ce soit. C'est juste que je trouvais que je mettais trop d'emphase sur passé. Ça faisait trop souvent l'activité primordiale de préparation, d'aller sur la route, d'avoir de quoi, Puis à un moment donné, j'ai perdu mon petit quantité de cocaïne, puis j'ai fait mon show, puis le show était merveilleux, puis là, j'ai dit, ah, je vais arrêter. Parce que j'avais une nouvelle blonde qui était jeune, puis j'ai dit à elle, je vais prouver que je suis capable de faire ça.
Parce que la majorité de ta vie, tu as consommé.
Bien, c'est sûr. C'est comme il dit, ça faisait partie de le quotidien.
Le beat,
c'est ça. And it was, il y avait une sorte de notoriété, puis une sorte de ça faisait partie de le rockstar image. Okay? Fait que c'était comme, on voulait se défoncer, puis celui qui était le plus défoncé, était le plus flyé, qui était le plus immonté, il
grimpait.
Quasiment
plus respecté parce que tu consommes. Mais à un moment donné,
à 62 ans, j'ai arrêté parce que... Mais je n'ai jamais regretté rien que j'ai fait. Puis j'avais toujours un avantage moi-même parce que j'avais toujours la priorité de faire mon show qui s'en venait dans 2 jours, dans 1 jour, dans 6 heures, dans quel... Je voulais être en forme pour faire mon show.
Tu n'as pas eu de la misère à arrêter de consommer après autant d'années?
Bien, c'est exactement une question de... La manière que j'ai arrêté, c'était juste un moment donné. J'ai réalisé que je portais trop d'importance à toujours avoir ce béquille-là. Puis en même temps, c'était juste pour... Il y avait des époques où j'arrêtais... J'étais incarcéré à New York City pendant 2 ans.
Fait
que
je n'ai
pas consommé, tu comprends? Mais juste en voulant dire que c'est... Je sais pas, c'était juste... Ça faisait... Comme il dit, à l'époque, ça faisait partie du beat habituel de la culture. La jeunesse, c'était ça. On était partout. Ça existe encore, mais cette époque-là, c'était vraiment... C'était à la mode, on dira. Là, à un moment donné, moi, je trouve que ça a changé. C'est beaucoup mieux comme ça.
Tu as dit que tu étais incarcéré à New York. Ce n'est pas une prison du Québec.
Non, c'est une grande histoire. J'ai même un film. Si tu vas sur YouTube, tu checkes le film Jim Zeller, Locomotive Blues. Okay.
Ouais, c'est un film.
Un documentaire, oui. Ça documente un petit peu qu'est-ce qui est arrivé. C'est une époque où je restais à New York. C'est arrivé, j'étais incarcéré 82 à 84.
À New York City. Jim.
À New York City, c'est ça. Fait que mais si vous voulez l'histoire de ça, on peut c'est bien documenté dans ce film là qu'on a fait avec des étudiants et c'est un très bon film. C'est comique aussi, puis ça vaut la peine d'écouter juste pour mes cheveux, c'est ça.
T'as tellement des beaux cheveux.
Moi, j'aimerais ça que tu nous racontes, Jim, que tu m'as déjà raconté personnellement. À un moment donné, tu avais été faire un show, je pense, avec Pagliaro pour une fête nationale dans un pénitencier.
Oui, oui. Ah, ça, c'était bon, oui.
Ça, c'était une bonne histoire.
Oui, on jouait, je pense, c'était à Laval Maximum. Et c'était la wing qui nous ont engagés. C'était des Hells Angels qui nous ont engagés. Puis, il y avait aussi Joe DiMarlo. Qui nous avait amené aussi, parce qu'Italien, Joe DiMarlo, c'est un grand mafio.
Bon,
on était pour jouer. Puis là, on arrive là, et comme tout le temps, quand tu arrives dans une prison, tous les gars de la wing, tout le monde se met en ligne pour transporter l'équipement, pour être là mon meilleur. C'est une célébration pour les détenus, c'est sûr. Mais nous autres, ce jour-là, on embarque, puis... Joe DiMarlo en avant, un petit jeune esclave, là, il dit, puis là, passe le message. Fait qu'il n'y a pas le message, j'ai passé, OK. Il va, Pag, il se dit, OK, on va jouer. Un émeute dans la prison. Je te jure. Dans le 17 juillet.
Vous avez vraiment 1960. Joué ça?
On a joué émeute dans les prisons, puis on a joué 5 fois.
Y a-tu eu un émeute dans la prison?
Ouais, ben c'est la chanson, tu sais, fait que eux autres, ils voulaient tellement comme ça. Ouais. Mais il y avait aussi, une fois que j'ai été, l'anecdote que je t'ai racontée c'est quand j'allais jouer pour, ça c'était à Laval aussi, mais en arrivant, avec notre band, ils checkent l'équipement avant de rentrer avec Bordel qui était là. Fait que on rentre, puis il y a de l'équipement, on rentre l'équipement, puis on rentre dans le bureau avec des screws, comme on dit. OK, là, on commence à checker tout le monde. J'avais un drummer français, il y avait un guitariste de Chicago, un bassiste. Puis moi, juste avant de rentrer dans la prison, j'avais comme un corps de pourde, la pourde, comme ils disaient, un rouleau dans ma poche. Fait que j'ai vidé le rouleau dans mon nez avant de rentrer. Okay? Et là, je rentre, puis en rentrant, là, puis la police me connaissait, Jim Zeller, là. Fait que c'est à peu près 9-10 heures le matin. Là, OK, là, il dit, tout de suite, tout nu,
fouille complète.
Fouille complète.
Ouais, une fouille complète.
OK, mais ben là, le gars, il dit, là, un des screws, il dit, OK, ouais, mais il dit, t'as-tu de la drogue sur toi? J'ai dit, non, j'en ai de la drogue dans moi. Puis là, il donne un napkin, un serviette. Là,
pour tester dit, okay, sur les mains. Dessus,
puis là, tu vois sur l'écran tout ce qui est dans ton système. Ça, c'est une nouvelle technologie qu'il y avait à l'époque. Une nouvelle technologie. Hello. Une nouvelle technologie. Et puis, comment ça va, toi?
Chérie, I love you.
Le chef Francis.
Technologie, puis ils ont essayé d'utiliser ça, la Sûreté du Québec, pour fouiller le monde, pour checker, pour la boisson, comme souplé, mais c'était de même. Mais à un moment donné, ils ont enlevé ça sur le... sur leur marché ou leur whatever, sur leur business, à cause que si moi, lui, il a consommé il y a une demi-heure, puis je lui donne la main. How are you, man?
Ouais.
Mais qu'est-ce qui était dans
ça? Il y a de la transmission.
Fait que, il y a du monde qui était accusé. Fait que ça n'a pas duré. Mais c'était juste des événements remarquables. Fait que, les anecdotes, on en, comme ça. Aujourd'hui, ça va devenir, ça va faire partie de mes anecdotes.
Ben oui, c'est sûr.
Le premier podcast.
J'aimerais ça aussi que Jim nous parle de ton aventure avec Bob Dylan, ta rencontre avec Bob Dylan, parce que Jim...
C'était bien, parce que c'était... puis c'est surprenant, parce que quelqu'un m'a envoyé... Il y a une revue qui s'appelle Famille Rock. Tu connais le pop rock magazine, OK? Géo, c'est des amis, OK? Je suis dans le temple de la renommée de rock au Québec à cause de ça. Mais quelqu'un m'a envoyé un post Facebook ou je sais pas, une petite affaire, un message, puis avec une photo de le Journal de Québec en novembre 1976.
Charles Paul Photopolis, ouais. Hein?
Oui, 1976, Journal de Québec. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'ai fait le show de Bob Dylan au Colisée de Québec et c'était en 1976.
Okay.
Ça veut dire que j'avais 22 ans. Puis je jouais à Québec, je faisais des tournées partout, puis à Québec, il y avait beaucoup de place à jouer. Puis je jouais dans une place, l'Hôtel Victoria. J'avais joué avec un gars qui s'appelle Alan Gerber, un gars de Chicago. On faisait duo ensemble. Superbe musicien. Et on avait joué notre show, puis il y avait plein de monde. Puis après notre show, c'était vers 11h moins quart. On monte en haut dans notre chambre d'hôtel, puis ça cogne à la porte. Là, j'ouvre la porte, puis c'est un des préposés du bar. Il dit, Jim, Alan. Il y a Bob Dylan et sa gang qui sont rendus là. Il veut vous voir. Il faut que tu joues un autre set. Parce qu'il veut vous inviter pour jouer, pour mettre un contenu québécois dans le show au Colisée demain soir. Pas de problème. On descend en bas. On embarque sur le stage. On joue d'autres tunes. Puis là, il y avait Bob Dylan. Il y avait Roger McGuinn. Il y avait John Baez, Joni Mitchell. Il y avait... Mon meilleur, il est devenu un bon ami à moi à New York après, Mick Ronson. C'est celui qui a écrit Ground Control to Major Tom.
Oui.
Tout ça, on a fait un show, puis après ça, on a été invité
au Château Frontenac. On a passé la nuit au Château Frontenac à jammer. J'étais assis piano à queue avec Joni Mitchell jusqu'à 5 heures le matin. Le lendemain, on jouait au Colisée.
Okay.
Et on a joué, c'était dans... Et cette tournée-là, ça s'appelait Rolling Thunder Review. Puis il a fait une tournée avec ça à Bob Dylan. Puis il a même fait un film. Ça s'appelle Rinaldo et Clara. Et je suis dans le film. Puis c'est la première fois que j'ai reçu un chèque en argent américain.
OK.
J'étais bien content.
Fait que finalement, une petite soirée qui était supposée être juste première partie au Colisée, ça a fini par...
c'est ça. C'est parce que, quelque part, ils voulaient... C'était bien. C'était avantageux pour nous autres, mais en même temps, il y a deux des chansons qu'on a jouées ont même apparu dans le film.
OK.
Mais c'est un film... tu peux le baler sur YouTube, tu peux le trouver. Rinaldo and Clara. Et tu vas boire sur stage au Colisée. Ça fait longtemps, là.
Ça fait quelques années déjà. C'était en 1976, c'est ça?
76,
ça, c'est la même année que les Jeux olympiques. En 76, il y a deux affaires marquantes. On a eu Nadia Comaneci et Jim Zeller avec Bob Dylan.
Ben, c'est 76, oui. dans ce temps-là, à Montréal aussi, j'avais commencé à jouer avec Bag. Puis à l'époque, dans ce temps-là, la place où il y avait de l'action à Montréal, dans le rock and roll et dans la musique, c'était dans la place Jacques-Cartier, dans le vieux Montréal. Parce qu'avant que ça déménage et toutes les activités ont déménagé sur la rue Saint-Denis. That was back in those days, place Jacques-Cartier, l'hôtel Nelson, le Plexi, il y avait l'air du temps, il y avait plein de places, mais c'était là où il y avait de l'action dans ce temps-là, dans le vieux Montréal. Et ça a changé après.
Tu étais reconnu aussi pour jouer tout le temps au bar à Jojo, peux-tu?
Bistro à Jojo.
Il y a bien du monde qui me disent qu'ils t'ont rencontré là.
OK, excuse-moi. Je suis en train de passer dans l'euphorie.
C'est légendaire, on ne veut pas manquer.
Non, mais juste pour dire que le Bistro à Jojo, ça a commencé le premier... C'est drôle parce que je vais jouer justement avec lui, là, Phil, il va jouer la guitare.
Comment ça, moi?
Avec lui, là.
Okay, ben. En passant,
on a dit que c'était juste professionnel.
En passant, chérie, Jim, c'est un des innovateurs du Bistro à Jojo. C'est un des premiers qui a joué là.
C'est ça. Jim Zeller. Je vais dire que le Bistro à Jojo, quand je suis arrivé de New York, de mon séjour carcéral, c'était en 1984. J'étais libéré le 1er juin 1984. Et je faisais des shows un petit peu partout parce que ça faisait des nouvelles. Jim Zeller est revenu. J'ai joué au Forum avec April Wine. J'ai joué avec Robert Charlebois à l'Agora, à Québec. J'ai fait beaucoup de shows, beaucoup de presse, beaucoup de conférences de presse. Et à cette époque-là, j'ai retrouvé mon ami Jean Miller. Et il se tenait souvent avec des Français qui avaient un petit bar sur la rue Saint-Denis qui s'appelait le Bistro à Jojo. Et le Bistro à Jojo, il y avait un Français qui avait la place, il s'appelait Marc Bottrell, un Bretagne. Et lui, c'est un passionné de blues. Fait qu'on avait commencé à faire des shows. Il y avait Jean Miller, il y avait Bob Harrison, il y avait beaucoup de différents bluesmen à l'époque qui ont commencé à jouer au Bistro à Jojo. Des lundis et mardis. Pendant le mois d'octobre jusqu'au mois de mai, parce qu'il n'y avait pas de licence pour des spectacles. Et aussi, ils ne pouvaient pas ouvrir les fenêtres de terrasse parce que c'était trop fort dehors. Il y aurait des plaintes, puis ils ne pouvaient pas. Fait que les shows se faisaient du mois de septembre jusqu'au mois de mai. Ça durait comme ça pendant à peu près 3-4 ans. Fait que je jouais là tout le temps. J'ai figuré l'autre jour, quand on jouait au Bistro, l'autre soir, j'étais retourné, ça faisait longtemps, je n'avais pas joué. J'ai joué là au moins 500 fois.
Okay.
Pendant
c'est une bonne moyenne.
Fait qu'on a bâti la place. Et c'était bien, c'était cool.
T'as pas pensé en acheter une partie? Ou?
Ben, la partie, j'ai laissé les cellules brûler. Ça. Okay. C'était mon paiement.
T'as donné en masse de paiement, mais t'as rien en action, c'est ça?
Ouais, l'action, ouais. Mais,
ouais, mais quand il va au bistrot Jojo, il y a de l'action.
Non, mais je vais te dire une chose qui est remarquable avec cette histoire-là, c'est que quand les Français ils ont quasiment bu le bar, tu comprends? Ils étaient tellement endettés que les huissiers étaient arrivés au bistrot. Ça, c'est à peu près 1988-90, peut-être. Ça fait qu'il était, il était fermé, le bar. Ou il était pour fermer parce que ça ne marchait plus. Avant qu'un nouveau propriétaire arrive. Parce qu'il était à peu près 6 heures de devenir un Dairy Queen, le okay. bistrot. Tu rentrais, puis derrière le bar, il y avait toutes les bouteilles. En haut du bar, c'était toutes vides, les bouteilles. Ça marchait pas.
Oh, mais Jim, c'est quand même ironique que le bistrot à Jojo, qui a quand même une réputation, qu'il y avait des gens qui étaient gelés un peu, que ça devienne un Dairy Queen, tu sais, quand même.
Ouais, c'est
quand même ironique.
C'est bien. C'est pour ça qu'il fait partie de notre affaire.
C'est un bon jeu de mots, c'est
parce
ça.
Parce que d'un moment, le cryptique.
Ouais, c'est
non,
ça,
mais
ouais.
Tout pour dire aussi que celui qui est arrivé, il s'appelle Francis Chamberlain, puis lui, il a repris la place. Il a rénové, il a bâti un stage, il a bâti des petites boîtes commémoratives, puis il a remonté la place. Fait que, mais c'est à dernière minute.
Okay.
He arrived at the last minute, puis lui, il a relancé la place. Et c'est là que il a fait beaucoup pour parce que c'était vraiment fini.
Fait qu'il a fait ça sur un coup de tête. On sait que ça marche, les coups
ben,
de tête.
Ben, c'est juste qu'il y avait un investissement à faire, puis c'est un autre passionné de musique et de blues, et la réputation était faite. Mais il n'y avait pas quelque chose de... C'était toujours des spectacles qui commençaient. Quand ça commençait, c'était comme une sorte de coup de bonheur des proprios, le proprio Bretagne qui voulait fêter la musique puis avec ses amis, son clientèle. Fait qu'il faisait ça low profile, tu comprends? Mais en même temps, qu'est-ce que ça a initié à ce moment-là? Ça a initié une compétition de tous les bars de la rue Saint-Denis, tout à coup. Il y avait... Je jouais dans tous les bars, puis c'était un collectif. Il y avait le Bistro Jojo, il y avait les Retrouvailles, il y avait le Grand Café. Après ça, en même temps, il y avait l'Ours qui fume. Puis quand tu montais à Saint-Denis, il y avait une place qui était fantastique, qui s'appelle les Beaux Esprits. Puis c'est tout sur la rue Saint-Denis. Il y avait 5 ou 6 places pour jouer sur la rue Saint-Denis à l'époque. Et c'est ça que tout qui a switché de le vieux Montréal s'est ramassé sur la rue Saint-Denis. Et ça a roulé comme ça pendant un bon bout de temps. C'est très bien. Une des seules places qui présente des spectacles encore sur la rue Saint-Denis, c'est le Bistro à Jojo. C'est sûr et certain que l'histoire, j'en fais partie de cette histoire-là, c'est sûr. Cette année, c'est le 50e anniversaire. Fait que
ouais,
je suppose de faire un grand spectacle. Moi, je pense que le 28 juin, je vais être là. Fait que okay. Je vais retourner un vrai show. Mais de toute façon, c'est pas le Magasin Général de Godbout, l'ancien, parce que c'est nouveau. Et c'est la renaissance de Magasin Général grâce à le coup de muscle et tes efforts de coude de toi. Fait que, mais je suis très, très content.
Tout ce qui est tête, c'est lui, par exemple. Là. Peut-être que nous autres, c'est le contraire dans le couple, hein, c'est ça?
Tout ce que je sais, c'est un bon travail d'équipe. Puis c'est fantastique. Puis je suis très content de venir ici. C'est la deuxième fois. Fait que c'est pas le dernier. Puis cet été, on va s'organiser. Parce que
on va fêter la fête à Jim.
Ouais, ça, c'est une crise de bonne idée.
Ouais, c'est une bonne idée. Hein?
Es-tu capable de sacrer un podcast?
Ben, ouais, on est capable.
Hey, baby! On n'a pas présenté notre nouveau producteur, c'est ouais. ça?
C'est quoi?
Que tout le monde voit à qui ouais. Jim parle. Voici le chien Francis. Ouais. Donc,
OK, le chien Francis, je veux dire qu'il y a même des articles dans son ventre à propos de Jim Zeller.
Ah, c'est sûr et certain.
C'est des articles de Photopolis, OK? Ouais. Qui suit ma carrière de près depuis 30 ans, c'est ça. Puis, allez, vous autres, comment ça va?
Oui, c'est ça. Là, on va, ouais, on va parler un petit peu à Phil.
Une seconde vedette.
Ouais.
Sois pas gêné, sois à l'aise, OK? Dans le bureau du principal.
Phil, qui est un nouveau, un nouveau dans, dans la gamme des artistes guitaristes du Québec. Phil, parle-nous de toi un peu. En plus, hein, Phil, on est à Godbout. Puis Phil travaille dans un magasin de chasse et pêche à Montréal. Oui, ben oui. Ben oui.
Je travaille chez Technique Chasse et Pêche, qui est un très, très bon magasin de chasse et pêche en Montérégie. Mais sinon, à part ça, ben j'ai fait quelques choix de vie qui m'ont. Qui ont fait en sorte que je me ramasse à jouer avec Jim Zelle. J'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours joué de la guitare. Ça a commencé quand j'avais 7-8 ans à peu près.
Il faut quand même dire là, que, tu sais, on en voit beaucoup de guitaristes ici à date. Là. Phil, c'est des meilleurs guitaristes qu'on a eu au Resto Club.
Ouais, oui, vraiment. Mais ce que j'aimerais aussi que Phil nous raconte, ta première rencontre avec Jim Zelle. Comment ça s'est passé?
Ça, c'est bon.
Oui, je suis sûr que c'est bon.
Il y avait un jam au Thursdays. Mon ami Pat m'avait invité.
Sa rue Crescent à Montréal.
Ouais,
Thursdays, vraiment. Légendaire bar.
Oui.
Jet Set, OK? Fait que continue.
Puis c'est ça, j'ai rencontré Jim de même. Puis on avait commencé à jouer du Rolling Stones, si je ne me trompe pas. Puis Jim, il a embarqué sur le stage avec nous autres, puis il a trippé.
We were playing Sympathy for the Devil.
C'est ça, c'était bien le fun. Puis, je pense que c'est resté ami avec Pat après ça. Puis, éventuellement, ben, t'sais, on avait un ami en commun qui est Pat. Puis, j'ai fini par me tenir avec toi aussi. Là.
Ben, c'est aussi dans le sens de que j'ai rencontré Pat et j'ai rencontré toi grâce à Pat un petit peu. Mais j'ai été invité pour faire... c'était l'événement chez Thursday. C'était pour ouvrir le nouveau Steve's Music Store.
Okay.
Parce qu'ils ont déménagé de Vieux-Montréal, sa rue Saint-Antoine. Puis, ils ont ouvert un nouveau qui est en face du Foufoune électrique maintenant.
Okay.
Un immense magasin. Puis, je connaissais Steve's. Ça fait partie... je fais partie des meubles à Montréal, un
studio
musical. Fait que... Ils faisaient leur ouverture, puis c'est un jam. Puis ça donnait que lui, il était là pour jouer. Mais Pat, je le croisais dans les petits jams à Montréal. Il s'était là parce qu'il faisait des... Puis j'allais des fois, puis il était tout le temps là. Puis on commençait à jaser. Puis à un moment donné, ça donnait qu'on est devenus des bons amis. Et en même temps, je savais qu'il jouait pour son plaisir, la bass, surtout dans les jams. Lui... Je connaissais aussi, il y avait ma copine Bella, Bella Godmer, qui va venir la prochaine fois on vient, mais il connaissait très bien. Il jouait avec elle aussi.
J'ai joué assez longtemps avec Bella.
C'est ça. Fait qu'on s'est reconnus comme ça, puis j'ai vu son talent, puis en même temps, je lui ai montré toutes les affaires qu'il devrait faire. Puis comme aujourd'hui, d'essayer de placer un mot quand je parle. Ça. Là, il l'a pris aussi.
Fait que Jim, c'est comme ton mentor, là.
Ben, c'est
dans
sûr.
Le sens, oui.
C'est ça que je disais tout à l'heure. C'est ça qui est agréable en vieillissant. C'est que je me rappelle de mes débuts, comment c'était. J'étais vraiment. J'appréciais tellement ceux qui ouvraient la porte et me laissaient ma chance. Et j'essaie de toujours être redonner ce que j'avais reçu. Je me mets dans la place que quelqu'un va arriver ici, il veut jouer l'harmonica avec moi. J'ai dit, OK, try. J'ai dit, je te donne un couplet, puis si t'es bon, tu vas continuer.
Mais ça paraît dans ta personnalité.
Je t'insulterai pas, mais je vais te dire. Si t'es pas assez bon, mais t'es pas assez bon.
Ça paraît dans ta personnalité.
Il m'a déjà vu aller d'abord.
Oh, ouais.
Ta personnalité est que quand tu donnes un spectacle, en tout cas ici, c'est la deuxième. Mais là, ce soir, c'est la quatrième expérience, parce que la dernière fois, tu as fait deux spectacles, puis ce soir, c'est la quatrième fois. Jim, c'est sûr que c'est un gars qui est super généreux, puis il n'est jamais sur le stage. Fait que, déjà en partant, il est très, très en interaction avec les gens. C'est pour ça qu'on t'aime autant, Jim.
Bien, c'est sûr et certain que. Qu'est-ce qui est important, quand je trouve, depuis que je fais des spectacles, c'est quand on fait des tournées, la place où ce que je joue, je mets tout le temps, quelques petits commentaires particuliers à l'endroit. Parce que le monde veut s'identifier à celui qui est sur le stage. Celui qui est sur le stage, s'il est conscient qu'il y a des baleines de l'autre bord de la rue, là, ben, j'en parle des baleines, c'est pas pour rien. Si je parle de tout le monde, c'est une... une communication, puis c'est comme ça, on peut fêter ensemble. Ben ouais. Tout le monde est égal. C'est pas comme, il n'y a pas de prétence de rock big star. Non. Pis, c'est question d'avoir une conscience et être d'apprécier des belles choses de la vie, comme en te regardant. Lui, comme en regardant sa barbe.
Puis en plus, Jim, pour les chasseurs de Godbout qui callent l'orignal, mais Jim est capable de caller la baleine. Hein, Jim? Ben oui, il est capable de caller la baleine. Le call de la baleine. C'est le call de la baleine. Vous voyez, chasseur de Godbout?
Ce soir, c'est sûr. Puis en passant, il s'appelle Régent.
Régent, oui.
Ouais. Puis, il s'en vient aussi avec sa copine Régine.
Elle est plus
dauphin, baleine? Ben, l'affaire, c'est que tous les deux, ils ont leur personnalité. Ils sont en chicane en ce moment. Mais ils sont pas pressés. C'est parce qu'il ne veut absolument pas aller à Tadoussac. Il y a trop de touristes.
Oui, c'est ça. Il y a trop de monde. Ici, ils sont plus tranquilles.
Fait que, ici, ils ont de la place. Puis d'un coup, puis il n'y a pas de tarifs ici non plus. Là. Les tarifs, c'est des baleines. On en veut
plus. On va parler à notre ami Pat aussi. Pat, ça fait la quatrième fois, lui aussi, avec Phil et Jim qui vient ici. Pat est un vétéran de l'armée. Fait que, Pat, tu veux s'en parler un peu
oui, absolument.
De ton expérience?
Ben oui. Moi, je me suis enrôlé dans l'armée à l'âge de 18 ans, en 1989. J'ai fait 8 ans et demi de service avec le 22e régiment. Puis avec eux autres, j'ai été déployé à Chypre, en Croatie puis en Bosnie. J'ai pris ma libération des forces, puis je me suis réenrôlé 2 ans et demi plus tard comme policier militaire. Puis avec la police militaire, je suis retourné en Bosnie. Je suis allé à l'ambassade du Canada en Algérie. J'ai fini en Afghanistan, en 2007. J'ai commencé à jouer de la musique, j'avais 43 ans. Après une carrière très courte de camionneur qui m'a permis de penser à ce que je voulais vraiment faire dans la vie, à part de chauffer des trucks, parce que...
T'es pas mal bon chauffeur en passant.
Merci, Jim.
Il a chauffé tout le long en passant de Montréal jusqu'à ici, dans la tempête de neige. Avant-hier, oui. Continue.
Oui, fait que c'est ça. Fait que quand j'ai lâché le camion, je voulais faire quelque chose. Fait que j'ai ramassé une bass guitar, puis j'ai commencé à jouer. J'ai commencé à prendre des cours, à pratiquer beaucoup. Puis mon prof de musique, qui était mon cousin, il m'a suggéré d'appeler ce jeune homme-là. Parce qu'il jouait de la guitare, puis il était pas mal bon. Fait que je l'ai comme traîné avec moi dans les jams, puis on avait du fun. Puis on a rencontré Jim. Puis nous voilà à Godbout.
Trio
en 2025.
Puis probablement que Pat était tellement longtemps dans l'armée, le taux d'oreille du temps des cheveux courts.
Non, mais aujourd'hui, c'est long gone.
Il n'y avait pas la même coupe à l'époque.
Non. Il y a un autre truc aussi qui est très remarquable et très plaisant. C'est parce qu'à un moment donné, on commence à se connaître assez bien. Et pour le 11 novembre, c'est Remembrance Day, journée. Il a fait parce qu'il a pris des cours dans la technique.
La musique technique.
Ouais, c'est pour ingénieur de son. Fait qu'il faisait dans son cours, on a fait un enregistrement ensemble avec Phil playing guitar et je jouais l'harmonica. Puis à chaque année pour Remembrance Day, on poste. C'est une pièce qui s'appelle The Last Post. Et le thème pour how would you describe the piece?
The Last Post, c'est une chanson qui se joue à la trompette, généralement par un trompettiste militaire, pour souvent dans les funérailles, pour commémorer quelqu'un de décédé, le jour du souvenir. The Last Post, c'est vraiment une chanson typiquement militaire, mais jouée à la trompette. Puis c'est une toune qui me touchait vraiment beaucoup. Fait que j'ai décidé de la faire par Jim puis Phil à la guitare électrique puis Phil à l'harmonica. Puis j'ai fait une production de ça.
Non, mais c'est bien parce que ça passe
À chaque année, on fait ça. Puis c'était un projet, le premier projet qu'on avait travaillé ensemble. Puis c'était plaisant. Parce que c'est très, très beau pour ça.
Ça fait combien d'années que vous travaillez ensemble, justement?
Oh, ça fait combien d'années? C'est une bonne question. Peut-être 5 ans.
Un petit peu plus que ça, Jim, je dirais.
2019, je dirais.
Non, avant ça.
Ouais, okay. Ou 2018.
2018,
ouais. Parce que quand j'ai fait mon dernier album, c'était en 2019, l'album, j'ai fait Blues from Another Planet. Puis j'étais en studio. Puis j'ai invité Phil et Pat pour venir souvent au studio parce qu'ils aimaient ça, voir comment ça marche en studio. Plus leur énergie pour leur objectivité d'offrir des idées ou je sais pas. Juste avoir leur présence était positif. C'est toujours le fun d'avoir ceux qui sont vraiment de ton bord en studio, puis avoir aussi la chance de partager l'expérience d'être en studio et comment ça fonctionne. C'est une sorte éducatif un petit peu pour eux autres. Fait qu'on est devenus de plus en plus proches pour ça. Puis durant le temps qu'on produisait cet album-là, c'est là qu'on s'est connus de plus en plus. Phil, il commençait, il jouait souvent avec ma blonde aussi, il faisait des shows, mais elle commençait à chanter avec moi aussi. Fait que c'est une sorte d'amalgame qui est positif, qui est venu initié par la musique et par de Jim Zeller un peu, c'est sûr. Ils sont zellerisés maintenant.
Justement, en parlant de ta blonde, Jim, j'aimerais vraiment que tu me racontes, parce que tu me l'as déjà raconté, mais ta rencontre avec ta blonde.
Ah ouais, ça c'est bon.
ça c'est bon.
J'arrivais de chez Steve's Music, justement. C'est un matin, je sais pas, un mardi matin, vers 11h. Puis j'étais assis avec, j'avais acheté une coupe de fil, un harmonica. C'est un mardi ou le lundi matin. J'étais assis dans le métro au poste de métro, Place d'Armes. Puis j'étais assis là. Puis je regarde une belle fille là-bas. Elle me regarde. Elle me regardait, j'ai dit, je te connais-tu? Elle dit, non, mais moi, je te connais, t'es Jim Zeller. Ah, ben ça a commencé là. C'est ça. Fait que je l'ai rencontré dans le métro. Mais c'est sûr que j'ai découvert qui elle était. C'est une chanteuse très, très, très talentueuse. Mais elle n'avait pas eu beaucoup d'expérience, fait que j'ai donné la chance de chanter avec moi beaucoup. Et c'est plaisant, c'est bon. Puis en même temps, je dis tout le temps, elle manque de elle est pas trop sécure dans elle-même, fait que la confiance, je donne la confiance parce que j'ai dit, tu penses-tu que j'engagerais une fille qui ne sait pas chanter pour chanter avec moi? Hello! Fait que c'est comme ça, puis la musique nous a mis ensemble un petit peu aussi, à cette manière-là. Mais c'est sûr que les jours passent pour tout le monde, hein? Mais c'est ça l'histoire de la rencontre. C'est pas mal.
C'est vraiment une belle histoire.
Ouais.
Moi, est-ce que je t'ai déjà rencontré, comment j'ai rencontré Valérie?
Non, je veux entendre ça, s'il vous plaît, en podcast. Madame et messieurs, en porte attention. Pour la première fois, officiellement, on écoute.
Ben, moi et Valérie, on s'est rencontrés à Cuba.
OK.
Ouais. Fait qu'on était dans un resort, puis habituellement dans des resorts, tout ce qui est québécois, que tu y ailles partout dans le monde, que tu sois au Mexique, en République ou à Cuba, mais souvent on fraternise entre Québécois. Puis une de ses filles, elle a fraternisé de façon assez, assez sexuelle avec un de mes garçons.
Mais j'aurais dit buccal, moi, en tout cas.
C'est qui faisait quoi avec qui?
C'est comme une relation buccale.
Non, mais c'est qui faisait quoi avec qui?
Ma plus vieille de 27 ans, parce que j'en ai une encore plus vieille que Leila, Jessica.
Jessica,
oui,
OK.
Jessica allait prendre bien des marches à la plage avec son garçon.
Un peu plus loin que le French, Jim. Je pense que ça a été vraiment comme... Puis mon fils, c'était très, très buccal. Ouais, puis mon
le
fils
buccal n'était pas célèbre, Jim.
Avait 16 ans. C'était l'été de ses 16 ans, mais en hiver à Cuba. Tu comprends?
OK.
Fait qu'après, mais là, c'est là que moi et Valérie, on a fraternisé à notre retour au Québec. Puis depuis ce temps-là, on est ensemble, ouais.
OK, ça veut dire que le départ, c'était à Varadero?
À Varadero, oui.
OK, c'est correct.
Bien, il ne s'est rien passé à Varadero. C'est vraiment nos enfants qui se sont
poignés c'est
à
cool,
Varadero.
C'est bien.
Nous autres, ça a été plus après.
Façon,
là.
Le destin, tes amis ensemble, puis le point de départ, c'était le Cuba, c'est ça.
Exactement. Les enfants, ça n'a pas
suite
continué,
des,
ça a arrêté
suite
un
des
peu
choses, c'est évidemment, c'est son charme.
Puis on est rendu ici ce soir avec
c'est son
Jim,
charme à lui,
Phil et
puis,
Pat.
Puis aussi tes muscles à toi, c'est ça.
Tes hommes, mes muscles, j'en ai pas tant que ça pourtant.
Non, mais c'est ici.
Mais là, vos enfants, ça veut dire qu'ils se fréquentent encore? Ben, en fait, pas.
Ben oui, ils se voyaient encore, mais.
Il buccalise plus.
Non.
Il buccalise plus, non.
J'ai même eu le temps d'être grand-mère depuis ce temps-là.
Fait que, mettons, là, parce qu'il va falloir qu'on finisse à un moment donné ce premier podcast.
Oui.
Moi, j'aimerais bien, parce que moi, vous êtes. On est rendu des amis depuis. Ça fait quand même la quatrième fois qu'on passe du temps, mais beaucoup de temps ensemble. Moi, j'aimerais savoir, Jim. Si tu as quelque chose à dire à Phil, qu'est-ce que tu dirais? C'est comme ton fils, cet enfant-là. Là.
À Phil, OK, j'ai dit, OK, Stand By Me, on l'a fait en sol.
Okay?
Mais n'oublie pas ça, OK? Puis quand tu fais Viva Las Vegas, fais comme tu as fait au chalet cet après-midi, parce que c'était excellent, OK? À part de ça, les chansons, la manière que tu joues les tunes, régulièrement, dans ce temps-là, je suis très satisfait. Je trouve qu'on commence à avoir beaucoup de plaisir à jouer. Puis je ne suis pas inquiète, je peux me promener jusqu'à aller voir les baleines. Puis je sais que la musique, le groove, va passer bien parce que je laisse ça dans tes mains, même si dans l'eau là-bas.
C'est quand même un beau compliment.
Tu fais un très bon job, puis je suis fier de toi.
Puis à Pat. Bravo. À Pat aussi.
À Pat. Pat, tout ce que je peux te dire, c'est que quand tu joues la bass, OK? Joue avec plus de liberté. Puis sois pas doink. Des fois, mets-en un petit peu plus. Gêne-toi pas. Puis à part de ça, soyez en forme. Puis je suis très content que tu es à l'aise. Puis on a du plaisir à se promener. Puis on visite bien des belles affaires. Puis je suis très chanceux de t'avoir dans ma vie. Merci, mon frère.
Bien, nous autres, on est chanceux de vous avoir, en tout cas, les gars. Fait qu'on...
Moi, je peux vous dire que dans les gens que j'ai rencontrés depuis que moi et Valérie, nous avons une programmation aussi, qu'on rencontre beaucoup d'artistes. Vous êtes des gens d'exception. Puis on vous aime d'amour, les amis. Vous êtes notre famille. Puis on va fêter la fête à Jim en haut.
Oh, c'est le 7 août.
Puis, le 7 août,
ouais. Puis,
il faut faire un party à Jim.
C'est sûr,
à
c'est comme ma fille.
Pas de venir avec sa camaro, là.
Ma fille, Melody, OK, ouais. Elle a... 23 ans. Puis là, j'ai dit, du monde demande, ben Melody, tu connais la fête de ton daddy? Elle dit, ben oui, c'est le 7 août. Là, elle dit, comment ça, tu sais ça? Elle dit, parce qu'il sait tout. Ouais, ben tu sais. Tout va dire que c'est un très bon petit projet, on va en parler.
C'est un projet.
Tout ce que je sais, c'est que. Le podcast, c'est un bon départ. Je trouve que lui, il n'a pas laissé la place bien à du monde.
C'est pas du tard.
Non, mais
merci à Wayne. Wayne, c'est grâce à toi.
Non, mais Wayne, Studio. Juste parce que je voulais que le monde porte attention à toi parce que tu le mérites. Puis on n'en faut plus jamais oublier Sly là-bas parce que lui, là, c'est le striker au cas où.
C'est le striker.
Le chien à Francis. OK, une petite passe de musique à bouche,
merci,
OK?
Merci, ouais, c'est ça, Jim. On va finir le podcast avec une petite passe de musique à bouche.
Mais on est vraiment fiers que tu sois notre premier invité à notre podcast, là, franchement.
Je suis.
Merci à tous. Jim, on va finir sur Jim avec. C'est sûr qu'il va nous jouer de l'harmonica, puis probablement qu'il va nous en jouer une ou deux. Fait que la semaine prochaine, on a en invité Earth LeBlanc qui va être ici vendredi le 11 et samedi le 12. Il reste quelques billets à vendre. Vraiment quelques billets. Earth, une légende du Nouveau-Brunswick, une légende du country. Je vous invite. 418-568-0060. À toi, mon Jim. Ah ouais, montre-nous. Un des meilleurs harmonicistes au monde, en
tout
passant.
Tout ça que je veux dire, que c'est notre chef cuisinier, Max, Mad Max, qu'on appelle. Dans la tradition de cette superbe place, ça me fait penser les dernières fois, la tradition, c'était de manger après la soirée, comfort food avec les amis. Et on était choyés hier par un petit plat qu'il a préparé. Et on mangeait du très mac and cheese, comme on dit. Mais dans l'esprit italien, je vous laisse avec une petite chanson. Thank you. Thank you very much. Je m'en vais préparer des boulettes, là, OK? Fait que showtime.